Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la France va s'occuper de la reconstruction du réseau de télécommunications ukrainien. Esso revoit sa présence en France et se sépare de 667 emplois. Et puis le surendettement des ménages augmente fortement sans retrouver le niveau pré-Covid. C'est un chantier titanesque à venir, mais qui ne commencera qu'une fois la guerre terminée. La reconstruction du réseau de télécommunications ukrainien, confié à des entreprises françaises, avec un accord signé avec la Fédération des acteurs spécialistes des infrastructures numériques. C'est elles qui seront chargées de rénover un réseau endommagé, Eric Kioch.
La guerre a causé jusqu'à maintenant des dommages estimés à 2,3 milliards de dollars sur le réseau Internet et de téléphonie ukrainien. Pour le réparer, le moderniser, la France, avec un des meilleurs réseaux d'Europe, est une valeur sûre, Philippe Legrand, président d'Infranum.
C'est incontestablement une reconnaissance du savoir-faire français. Notre filière exporte beaucoup. On réalise 32 milliards à l'étranger. On est rompu à l'exercice dans des déploiements d'infrastructures de communication électronique.
Pour les entreprises françaises, le futur chantier ukrainien estimé entre 5 et 10 milliards d'euros représente une opportunité.
On peut imaginer que la croissance que connaissait l'Ukraine avant la guerre reprenne très fortement juste après la guerre. Et donc, des investissements aujourd'hui ne sont pas forcément un mauvais calcul. Et certains entrepreneurs français se lancent déjà.
Il s'agira aussi de transferts de connaissances stratégiques pour le secteur, explique Étienne Dugas, directeur général adjoint de l'entreprise Groslot, spécialiste des équipements télécoms.
Ils ont des choses à nous apprendre, notamment gérer les communications en temps de guerre. Aujourd'hui, il y a un savoir-faire ukrainien qui sera bien utile pour pouvoir gérer les télécommunications en cas de conflit.
Cet accord est un premier pas. Il s'agit d'abord d'étudier la faisabilité des chantiers, de trouver des financements. Ensuite, des raccordements tests se feront hors zone de combat pour entraîner Français et Ukrainiens à travailler ensemble. Objectif, être prêt dès la guerre terminée.
Éric Kioch est le directeur général du Crédit Agricole Ukraine. Carlos de Cordoue est avec nous à 7h15. Une guerre qui a aussi provoqué une hausse des coûts de l'énergie, notamment du pétrole. De quoi convaincre les Européens de maintenir le cap de l'électrification du parc automobile. C'est l'une des explications à cette annonce d'Esso de fermer une partie de son site à Port-Saint-Jérôme en Normandie et la cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer. Au total, ce sont 667 emplois supprimés. Céline Cajoulis.
L'an dernier, Esso a réalisé un bénéfice d'€1 milliard dans le pétrole et perdu 300 millions dans les activités de chimie, principalement à cause du coût du gaz et de l'électricité qui, depuis la crise du Covid, ont doublé et qui étaient déjà avant bien supérieurs à ce pratiqué en Amérique du Nord. En plus, le site de Port-Saint-Jérôme est trop vieux et trop petit par rapport à ce construit plus récemment et il n'est donc plus compétitif, d'où l'annonce de sa fermeture. Concernant le raffinage, si on compte aujourd'hui encore 8 raffineries en France, on sait qu'il y en aura de moins en moins, c'est le sens de l'histoire, avec une baisse de la consommation du fioul et l'électrification du parc automobile. D'ailleurs, aujourd'hui, on raffine en France pratiquement autant de tonnes de pétrole que ce qui y est consommé et comme les marges sont volatiles, c'est difficile de couvrir les coûts. La raffinerie de Port-Saint-Jérôme qui traite chaque année 12 tonnes de pétrole restera dans les mains d'Esso. En revanche, celle de Fos, plus petite, elle ne raffine que 7 tonnes de pétrole par an et plus moderne, ainsi que deux stockages associés dans le sud de la France, seront cédés à un consortium suisse qui va continuer à les exploiter en conservant les 310 salariés.
C'est là une source d'énergie décarbonée, la géothermie. Le principe est de puiser de l'eau chaude en profondeur pour alimenter les réseaux de chaleur avant de réinjecter l'eau sous terre. C'est très peu développé en France. Bruno Le Maire voudrait accélérer le déploiement de cette technologie avec la visite d'un chantier en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, car l'Île-de-France a un sol avec d'importants gisements exploités aux épaliers.
Cartographier les sous-sols pour savoir où puiser l'eau chaude. Le Bureau de recherche géologique et minière sillonne des villes d'Île-de-France. Grâce à un système de vibrations et de capteurs, il obtient des images à 3 km de profondeur. Alexandre Storpin, géophysicien au BRGM.
On sait qu'il y a une ressource. La question, en fait, c'est de savoir la facilité avec laquelle on peut l'extraire. Est-ce qu'il y a de l'eau? À quel endroit est-ce que la roche est la plus poreuse et aussi la plus perméable? Et c'est là-dessus qu'il y a le plus d'incertitudes dans ce secteur de l'Île-de-France. Les coûts des forages, c'est à plusieurs dizaines de millions d'euros pour une installation, vaut mieux ne pas se tromper.
Cela sert ensuite à chauffer des logements collectifs ou des sites industriels. Mais il existe aussi des pompes à chaleur géothermique pour des maisons individuelles. En 10 à 15 ans, on amortit les coûts d'installation, explique Astrid Cardona Maestro, référent de géothermie à l'ADEME.
L'intérêt, c'est qu'elle présente des coûts d'énergie stables et maîtrisés sur toute la durée de vie de l'installation. En comparaison de radiateurs électriques classiques, une pompe à chaleur géothermique permettra de diviser par 3 la facture d'électricité.
À terme, 85% du territoire pourrait bénéficier de la géothermie, mais elle reste trop peu connue des particuliers, des collectivités, des entreprises, et le secteur manque de main-d'œuvre pour répondre aux besoins.
La fin du logement social à vie pour certains ménages. C'est ce que propose ce matin dans Les Échos le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, que les bailleurs examinent régulièrement la situation financière des locataires pour mettre fin au bail de ceux dont la situation a radicalement changé ou simplement en augmentant le loyer. Une mesure qui devrait figurer dans le projet de loi logement présenté début mai en Conseil des ministres. On y revient dans l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h12. C'est une dynamique qui ne cesse de progresser. Les chiffres du surendettement des ménages. La Banque de France a publié les chiffres du premier trimestre, Eric Mauban. Et la hausse est de 17% sur un an.
Ouais, c'est deux fois plus que les 8% constatés sur l'ensemble de l'année 2023. Mais la progression reste toutefois inférieure à celle observée avant la pandémie. Il s'agit donc là d'un retour à une situation quasiment normale liée à la suppression de mesures exceptionnelles prises pour protéger les ménages, telles que les boucliers tarifaires sur l'énergie ou les dispositifs de soutien à l'emploi. Ce qui est plus inquiétant, c'est que le flux des incidents de remboursement de crédit évolue, lui, plus rapidement que celui observé avant le Covid. Au premier trimestre, leur nombre a fait un bond de 19% en rythme annuel. Selon les données de la Banque de France, il ne faut pas y voir la conséquence d'une mauvaise gestion, mais celle d'un bouleversement de la vie personnelle, lié par exemple à une séparation, un licenciement ou un décès, des situations qui compliquent évidemment le remboursement des dettes. Le tassement de l'activité économique et la hausse du taux de chômage qui en découle laisse présager pour les prochains mois une poursuite de l'augmentation des situations de surendettement.
Eric Mauban en direct. La Banque de France confirme sa prévision de croissance pour le premier trimestre, plus 0,2%. Sur l'année, ce serait 0,8%. C'est moins, mais ça n'est pas incompatible selon la Banque de France avec ce qu'espère le gouvernement, à savoir 1% de croissance en 2024. Pour réduire le déficit, il n'y aura pas de hausse d'impôts, qualifiée de maladie française par Emmanuel Macron hier à Bergerac. Le président venu pour parler d'économie de guerre avec plusieurs projets d'usines annoncés. La production de baguettes de soudage dans le territoire de Belfort, l'impression 3D pour des pièces à usage dual dans le Cher. En tout, 11 projets dont 5 qui pourraient aboutir dans les prochains mois. C'est du gagnant-gagnant. Gabriel Attal est au Canada en déplacement où il a rencontré son homologue Justin Trudeau. Les deux ont tenu à défendre l'accord de libre-échange, le CETA, que le Sénat français a rejeté ces dernières semaines. Les marchés financiers aux États-Unis, le Dow Jones a fini à l'équilibre. L'indice du Nasdaq a pris 1,68%. En revanche, en Europe, le CAC recule de 0,27%, le DAX de presque 0,8%, malgré la perspective d'une possible baisse des taux de la Banque Centrale Européenne au mois de juin. Concernant les cours du pétrole, il y a un recul hier avec 89,74 $ pour le prix du baril de Brent de la mer du Nord. Les cours avaient augmenté après les menaces de guerre entre l'Iran et Israël. Alors que Boeing est en plein déboire chez Airbus, on assiste à des tensions en pleine négociation salariale. Elles sont en cours et elles sont difficiles car les syndicats parlent de conditions de travail difficiles et des salaires qui n'attirent pas. Résultat, eh bien, on assiste à une fuite des cerveaux. Dominique Redor est professeur émérite à l'université Gustave Eiffel et associé au Centre d'études pour l'emploi et du travail du CNAM.
Pour ce qui est de l'aéronautique, alors c'est vrai, c'est un secteur qui est en tension et qui recrute. Mais néanmoins, là, on tombe sur autre chose, c'est que les États-Unis sont extrêmement attractifs. Ils sont attractifs en termes salariales, donc il y a vraiment un écart qui est considérable entre les personnes très qualifiées, notamment qui travaillent dans l'économie numérique et l'intelligence artificielle, entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part. Et puis l'autre chose, c'est que aussi à l'intérieur de l'Europe, il y a peu de mobilité, c'est-à-dire que si Airbus, par exemple, à Toulouse ne trouve pas d'ingénieurs français, il y a relativement peu d'Allemands ou d'Italiens ou d'autres Européens qui viendront travailler en Europe. Et d'une manière générale, donc les cerveaux européens sont plus attirés par les États-Unis que d'aller dans un autre pays européen, ce qui est évidemment un problème important.
Dominique Redor, le professeur émérite à l'université Gustave Eiffel, dans le journal de l'économie de Radio Classique. Il est bientôt 6h57.